Tu écoutes le podcast Conflits et gestion de crise de Major Prépa en partenariat avec Rennes School of Business.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la question de la gestion de crise en partenariat avec Rennes School of Business. Nous allons évoquer dans ce premier podcast un pays central dans le concert des nations mondiales, une grande puissance chiite au Moyen-Orient, la grande puissance chiite au Moyen-Orient, puissance démographique également, en proie à des sanctions économiques internationales depuis maintenant plus de 15 ans. Il s'agit bien sûr de la République islamique d'Iran. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Thomas Flichy de la Neuville. Thomas, bonjour. Vous êtes donc titulaire de la chaire de géopolitique à Rennes School of Business. Alors peut-être avant toute chose, Thomas, est-ce que vous pouvez vous présenter plus amplement à nos auditeurs ?
Alors, j'enseigne la géopolitique depuis une quinzaine d'années. Je l'ai enseigné d'abord à l'école navale, puis à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et aujourd'hui, j'anime un programme de géopolitique au sein de Rennes School of Business, un programme qui hybride finalement le management et les humanités.
Voilà, très clair. Merci à vous, en tout cas, Thomas, pour cette présentation. On va rentrer maintenant donc, dans le vif du sujet, donc l'Iran et le monde iranien. Avec cette première question, peut-être, donc, quelle est la particularité, on va dire, de l'Iran, de sa civilisation, justement, dans ce concert des nations au Moyen-Orient ?
Eh bien, quand on regarde la liste des savants musulmans dans le monde, on se rend compte que la plupart de ces savants sont d'origine persane. Donc l'Iran, si on veut donner une caractéristique sur ce qui fait sa particularité, c'est, on pourrait dire, son imagination, sa créativité. Et cette créativité, elle s'enracine dans la poésie, dans la littérature persane, une civilisation qui a résisté à peu près 1000 ans d'invasion, turque, arabe, mongol et bien d'autres, et qui a su puiser dans son fond culturel propre le ressort pour pouvoir surmonter ces invasions.
Alors, on le sait, hein, l'élection américaine de Joe Biden va peut-être être déterminante pour la région, en particulier pour l'Iran. C'est peu de le dire, Donald Trump était particulièrement hostile à l'égard de ce pays. Qu'en est-il donc de cette élection ? Est-ce qu'elle va fondamentalement changer les choses en Iran ?
Alors, quand on regarde l'élection présidentielle précédente, lorsque Trump a été élu, sa différence avec son opposante était la suivante. Trump était plutôt sur une logique isolationniste, donc moins faire intervenir l'Amérique dans les affaires du monde et réguler les guerres qu'avait lancées l'Amérique. En revanche, son opposante était interventionniste et belliciste et soutenue par finalement les lobbies de l'armement. Mais il y avait une exception dans cette opposition, et cette exception, c'était l'Iran. Et donc, Trump a été plutôt dur vis-à-vis de l'Iran. On sait qu'il a laissé les rênes de la diplomatie à son gendre Jared Kushner. Et d'ailleurs, Jared Kushner a remporté beaucoup de victoires au Moyen-Orient, notamment des reconnaissances diplomatiques par les Émirats arabes unis d'Israël. Et avec l'élection de Joe Biden, on a un renversement de posture, puisque à l'image d'Obama, Joe Biden va être plus compatissant vis-à-vis de l'Iran. Et d'ailleurs, on a pu voir des premiers signes où les États-Unis, où Joe Biden montre que les États-Unis veulent revenir à des négociations sur les questions nucléaires de concert avec les Européens. Donc on voit un changement de posture. On peut ajouter à cela le fait que l'Arabie Saoudite a massivement soutenu, d'un point de vue financier, la campagne de Trump. Et donc l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, est plutôt en froid avec les États-Unis.
Alors bah justement, on a cette opposition classique structurelle depuis maintenant des décennies au Moyen-Orient, entre l'Iran chiite et l'Arabie Saoudite d'une part sunnite. Quel est aujourd'hui l'équilibre des forces ? Qu'en est-il aujourd'hui justement de cet équilibre un petit peu des rapports de force au Moyen-Orient ?
On pourrait dire que l'Iran est neutralisé d'un point de vue géopolitique, lui qui est allié aux grandes puissances continentales eurasiatiques que sont la Chine et la Russie. À l'inverse, l'Arabie Saoudite est toujours arrimée au bloc occidental, donc aux États-Unis, à Israël, à l'Angleterre, à la France, à l'Europe, avec des relations économiques très suivies. Mais cette Arabie Saoudite reste fragile d'un point de vue géopolitique. Et donc, les rapports entre les deux grandes puissances régionales du Moyen-Orient pourront évoluer dans les mois qui vont venir. On se souvient de l'assassinat de Soleimani par les États-Unis. Soleimani négocie en réalité en Irak, pour le compte des Iraniens, un rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Et ce rapprochement n'était naturellement pas souhaité par les États-Unis, qui jouent sur l'opposition entre ces deux puissances régionales.
Un autre sujet que j'avais évoqué aussi en introduction, hein, l'Iran est sous le coup de sanctions internationales très dures, hein, qui mettent à mal son économie. Pourquoi finalement ces négociations avec l'Iran sont-elles si longues et si tortueuses depuis maintenant toutes ces années ?
les Iraniens ont une façon très particulière de négocier qui est due à leur histoire et en fait au siècle d'invasion, au mille ans d'invasion qu'ils ont connu. Ces mille ans d'invasion ont fait que les élites persanes étaient obligées constamment de négocier elles-mêmes avec un pouvoir souverain qui n'était pas persan, hein, qui a pu être arabe, turc, mongol ou autre. Et donc elles ont dû mettre au point des procédés de négociation extrêmement sophistiqués afin d'assurer leur survie politique. Et il en résulte que la mesure du temps, le rôle des cadeaux, les circonvolutions diplomatiques sont quelques traits culturels qui marquent la façon de négocier des Iraniens et qui nous sont un petit peu étrangères, surtout lorsque nous avons rompu avec notre propre histoire et avec notre propre culture.
Et alors, justement, au sujet de ces sanctions, qu'en est-il aujourd'hui ? Voilà, alors, on le sait, hein, ces sanctions donc, qui ont trait effectivement au programme nucléaire hein, que l'Iran a mis en place au début des années 2000. Est-ce que concrètement, alors on l'a dit avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, mais aussi avec cette nouvelle donne un petit peu géopolitique qui est en train de se dessiner dans la région, est-ce que les choses ont aujourd'hui des chances d'aboutir ou est-ce que l'Iran se retrouve finalement encore dans une sorte d'angle mort géopolitique aujourd'hui ?
Alors, je pense que pour des raisons à la fois mécaniques, au fait que, bloqué du côté occidental, l'Iran s'est retourné vers l'Orient, donc vers la Chine qui s'est emparée de son marché pétrolier, et vers la Russie qui l'aide d'un point de vue militaire. Pour ces raisons mécaniques d'alliance entre trois puissances continentales qui ont un déficit maritime, l'Iran reste dans un angle mort. Et il y a une deuxième raison, c'est une raison idéologique. L'Iran est à peu près le seul pays au monde qui ait construit un discours idéologique de critique de la mondialisation, un discours assez construit et sophistiqué, et pour ces deux raisons, à la fois idéologique et mécanique, eh bien, ce pays a beaucoup de chances de rester bunkérisé, on pourrait le dire.
Alors, une autre question aussi un petit peu connexe à ce niveau-là. Malgré tout, vous l'avez dit, l'Iran reste une nation au Moyen-Orient, mais pas que, extrêmement importante dans le concert des nations, extrêmement influente aussi. Quels sont finalement les ressorts de cette puissance iranienne ? Alors, on le sait, c'est une puissance d'abord démographique de 80 millions d'habitants environ, il me semble, mais finalement, bon, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui concrètement aujourd'hui fait le rayonnement de l'Iran à travers le monde ?
Alors il y a sa démographie, il y a aussi sa langue. Donc le persan est parlé en Afghanistan, il est parlé au Tadjikistan, mais on parle aussi des langues très proches du persan, comme l'hindi dans tout le sous-continent indien. Donc il faut se souvenir que jusqu'à la fin du 19e siècle, le persan a été la langue parlée par les élites savantes et commerciales depuis l'Inde jusqu'à la Turquie. Donc il y a le fond culturel et le fond de civilisation. Et je pense que c'est le principal ressort de l'Iran, une puissance qui n'a jamais pu se constituer tant qu'elle restait confinée sur le plateau iranien.
Une autre question maintenant aussi concernant donc, la jeunesse iranienne, hein, puisque voilà, on le sait, hein, pour ceux qui ont bien révisé leur programme de géopolitique, il y a eu donc cette révolution, cette révolution coranique hein, à la fin des années 80, 1979. Aujourd'hui, on voit l'émergence d'une génération qui n'a pas forcément connu cette période, en tout cas qui a toujours baigné effectivement dans ce régime assez particulier à travers le monde. Voilà, concrètement, quelles sont aujourd'hui les aspirations de cette jeunesse ? À quoi aspire-t-elle, elle qui a vécu pendant toute une partie de sa vie sous le régime des sanctions et donc sous une sorte de défiance à l'égard de l'Iran assez globalisée, j'allais dire.
Alors les Iraniens ont quelquefois des attitudes assez paradoxales. On a une jeunesse qui est dynamique, qui est très bien scolarisée, en particulier la population féminine. Elle est en grande partie scolarisée à l'université. Donc une jeunesse très bien formée, formée aussi sur des métiers techniques. Donc, qui fait de l'Iran un bon réservoir de manœuvres et d'ouvriers spécialisés, de techniciens. Et cette jeunesse, elle aspire à l'ouverture, elle aspire au voyage, elle aspire à faire des études ailleurs, en France, en Corée du Sud, pays avec lequel l'Iran a beaucoup de relations. Mais elle est d'ailleurs très à l'écoute de ce qui se passe dans le monde, très connectée avec leurs téléphones qui viennent importer clandestinement à travers le golfe Persique. Mais elle souhaite à la fois la modernité, la connexion, l'ouverture et en même temps la perpétuation de ses traditions historiques et religieuses. Donc ils veulent à la fois l'identité et l'ouverture.
Alors, c'est tout le paradoxe, justement, hein, que vous venez de pointer. Comment cette singularité iranienne, pardon, va-t-elle donc se résoudre à terme dans cette modernité qui semble assez incompatible aujourd'hui avec certaines valeurs, en tout cas, prônées par la vieille garde iranienne?
Il ne semble pas que l'identité iranienne soit amenée à se dissoudre, à disparaître avec la mondialisation. D'ailleurs, on voit peut-être un petit peu l'inverse. La mondialisation, la fermeture des frontières, la numérisation du monde a eu pour conséquence de radicaliser les cultures, de nous enfermer dans des bulles où nous correspondons souvent avec des semblables. Donc la jeunesse iranienne, elle va perpétuer son identité et en même temps, elle va voyager, en tout cas elle le fait déjà en esprit, en contournant les sanctions imposées par le gouvernement sur Internet et en étant présente sur les réseaux sociaux.
Oui, voilà, essentiellement. Une question maintenant d'un tout autre ordre. Quelles sont donc les relations qu'entretiennent aujourd'hui l'Iran avec notre pays, la France? Voilà, on le sait, la France s'est pas toujours positionnée clairement vis-à-vis de l'Iran, et notamment vis-à-vis de ce conflit qui dure maintenant avec les États-Unis. Concrètement, quid aujourd'hui des relations entre l'Iran et la France?
Alors, il y a eu, en fait, du côté français, deux attitudes très différentes. D'abord, au début, pendant la révolution islamique et dans les décennies qui ont suivi, il y a eu une coopération entre la France et la République islamique d'Iran, avec une présence industrielle de Total, par exemple, ou bien Renault, Peugeot. Tous les grands groupes industriels étaient bien conscients de l'importance du marché iranien. Et donc, on conservait des sièges sur place et on fait des affaires avec l'Iran. Et d'ailleurs, cette présence économique s'inscrivait dans une relation très ancienne entre la France et la Perse, puisque à la cour de Louis XIV, on considérait que la Perse était une autre France, une France de l'Orient. Et d'ailleurs, il y a une fascination pour l'Iran au XVIIIe siècle qui fait figure d'espace de très haute civilisation, à l'instar de l'Italie ou de la Chine. Et puis après, à partir du début de la présidence de Nicolas Sarkozy, il y a eu une politique beaucoup plus dure de la France vis-à-vis de l'Iran, une sorte de renversement de posture avec les États-Unis qui, au moment où les États-Unis ouvraient, au contraire, sur l'Iran, la France était avec une position idéologique dure. Donc, une relation très particulière. Il nous reste un capital culturel en Iran, puisque les Français ont investi en Iran sur les fouilles archéologiques au moment où les Anglais se précipitaient sur le pétrole iranien, où les Belges acquéraient le monopole du tabac. Donc la France reste associée à l'image de la culture, mais on peut dire que son image s'est beaucoup détériorée au cours des dernières décennies.
Alors justement, vous parliez de l'ensemble des entreprises françaises qui étaient implantées. Effectivement, l'Iran, on l'a dit, de par sa puissance et sa démographie, est un marché intéressant pour tout type d'entreprise. Néanmoins, évidemment, cette économie iranienne s'est retrouvée asphyxiée depuis de nombreuses années maintenant par les sanctions. Quel est l'état aujourd'hui, de manière très concrète, de l'économie iranienne?
Cette économie s'est effondrée sous le coup des sanctions. Du fait aussi que les avoirs financiers iraniens n'ont jamais été bloqués. L'économie, elle est tenue aujourd'hui par les gardiens de la révolution islamique, qu'on appelle les Pasdaran, qui contrôlent les importations de biens par le biais de ports clandestins, où transitent 40% de l'économie iranienne. Et puis, ces Pasdaran s'appuient sur des boniades, qui sont des fondations religieuses, afin de tenir le régime. Donc, on a eu une élite qui est née de la révolution, qui était au départ une élite militaire, mais qui aujourd'hui fait des affaires. Il n'y a aucune contradiction en Iran entre ces deux fonctions, contrairement à ce que l'on peut trouver en France.
Peut-être une dernière question maintenant d'ordre un peu plus conclusive. Quels sont selon vous les grands enjeux auxquels l'Iran sera confronté dans les peut-être 2, 3, 4 années à venir?
Eh bien certainement, ils vont être confrontés à la nécessité d'un changement de gouvernance. Ils vont être confrontés également à la montée en puissance de l'influence russe dans la région qu'on a bien senti en Syrie, mais qui se fait sentir également dans leur pays, et au potentiel désengagement américain du Golfe Persique et à la montée en puissance chinoise. Le rêve pour l'Iran restant de maintenir finalement une politique d'équilibre. Afin de maintenir leur indépendance, il leur faut s'ouvrir à la fois sur l'Orient, sur l'Inde et la Chine, et à l'Occident, sur les États-Unis et l'Europe.
Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous, donc Thomas Flichy de la Neuville, je le rappelle, donc titulaire de la chaire de géopolitique Arendt School of Business. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau podcast sur Major Prépa.
Merci.